Partage ton pain avec l'affamé, héberge les pauvres sans abri, couvre celui que tu vois nu, ne te dérobe pas devant celui qui est ta propre chair. Et j'ajoute, prends soin du corps et de l'âme de ton frère ou de ta sœur qui est en fin de vie. Alors, nous dit le prophète Isaïe, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et littéralement ta cicatrisation s'opérera très vite. Frères et sœurs, quelle force dans ces versets du prophète Isaïe. Si nous prenons soin des plus souffrants, des plus pauvres, des plus marginalisés, dans leur corps ou dans leur âme, alors nos ténèbres intérieures, et qui n'en a pas, seront dissipées, et nos blessures, et qui n'en a pas, guériront vite. Quelle merveille, quelle révélation. En prenant soin des plus blessés, nous ferons sauter les verrous de nos prisons intérieures. Et nous deviendrons des vivants remplis de lumière. Voilà ce que le Seigneur nous révèle aujourd'hui par son prophète Isaïe. Pensez, si notre communauté eucharistique se rend plus attentive encore aux détresses physiques, morales et spirituelles des citoyens de Montréal, c'est une grande lumière qui brillera ici. Et regardons aussi, dans cette même perspective, la loi 52. Si notre société légifère pour autoriser l'euthanasie, c'est-à-dire la mise à mort des plus faibles, alors notre société, nous fait comprendre Isaïe, est une société qui perd sa lumière et qui devient malade, très malade. S'ajoute la particularité de la loi 52 qui appelle l'euthanasie un soin de fin de vie. Adopter cela, c'est enfermer la société dans un mensonge. Allons plus loin. Le projet de loi affirme que le but de l'euthanasie est de soulager la souffrance d'une personne en entraînant son décès. Je prends littéralement le texte. Mais qui nous dit que l'on soulage la souffrance d'une personne en la faisant mourir? Qui peut affirmer cela? Quelle autorité politique peut parler de ce qui se passe au-delà de la mort? Frères et sœurs, en voulant devenir les maîtres de la vie, nous nous plongeons dans les ténèbres et dans de grandes souffrances. Alors que faire? Quelle est notre mission de chrétienne et de chrétien au Québec en 2014? Écoutons ce que nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Jésus vient de donner à ses disciples, c'est l'évangile qui précède, vient de donner à ses disciples les 8 béatitudes que nous connaissons bien. Les béatitudes sont des paroles d'encouragement, un appel à aller de l'avant. Cela te coûte d'être artisan de paix à l'école de Jésus. Tu perds courage, tu as l'impression d'échouer, de t'épuiser en vain. Non, heureux es-tu. Tiens bon, tu seras appelé enfant de Dieu. Cela te coûte de pardonner? Tu es tenté par la rancune, la vengeance? Non, ne cède pas. Tiens bon, fais miséricorde et l'on te fera miséricorde. Et comme les béatitudes sont un appel à aller de l'avant, à tenir bon dans la fidélité au Christ. Cela te coûte de suivre Jésus, d'être insulté, d'être moqué, d'être en décalage par rapport à la société? Tiens bon, dit la dernière béatitude. Heureux es-tu, ta récompense sera grande dans les cieux. Alors, ayant dit ça, Jésus prend deux images. Vous qui tenez bon dans la fidélité à l'Évangile, dans la fidélité à Jésus, à sa croix et à sa résurrection, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre. Alors, ne pensez pas ici à du sel fin dans une jolie salière Ikea. Dans le contexte du temps de Jésus, il s'agit de gros sel brut, dont le premier usage est de conserver les aliments. Le sel, c'est d'abord ce qui évite que les aliments se corrompent, se gâtent. C'est aussi ce qui donne de la saveur et du goût. C'est discret. Ça n'a rien de séduisant du sel. Mais c'est tellement précieux. Le sel est ainsi devenu le symbole d'une vraie sagesse, celle qui évite la corruption du péché et donne saveur à la vie. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, si vous vivez de Jésus, si votre cœur, votre vie sont imprégnés du mystère de la croix, du grand abaissement de Jésus et de la joie sans fin de la résurrection, alors vous préservez la société de la corruption et vous apportez ce qui donne à la vie sa vraie saveur. La vraie saveur de la vie, ce n'est pas la jouissance, parce que la jouissance échoue dans la mort un jour. La vraie saveur de la vie, c'est de faire de notre vie un don et de tenir bon dans le don, en embarquant dans le don de soi de Jésus. Et cela mène à la vie éternelle, à la joie éternelle, déjà goûtée, anticipée en cette vie présente. Si nous, chrétiens, nous laissions de côté l'Évangile, si nous délaissions la croix et la résurrection, qui donnera au monde sa saveur? Qui d'autre que nous, chrétiens, donnera au monde la sagesse de la croix? Qui d'autre donnera au monde l'espérance de la résurrection comme don gratuit qui nous vient de la tendresse du Père, de l'offrande de Jésus et du travail mystérieux et caché de l'Esprit-Saint? Qui donnera à notre nature humaine affadie, comme disait Jean Chrysostome, cette sagesse, ce sel qui ouvre jusque dans la souffrance et la mort le chemin des béatitudes et de la vie éternelle? Les valeurs les plus nobles ne suffisent pas pour donner sens, plein sens, à cette vie. La loi 52, rédigée au nom des valeurs, en est la preuve. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne perdez pas votre saveur, ayez du sel en vous. À quoi servirait la foi si nous n'offrons pas au monde la saveur de la vie qui est le mystère de Jésus? Je lisais cette semaine dans le journal Métro que les États-Unis manquent de sel pour mettre sur les routes. Mais c'est bien cela. Et c'est pas juste les États-Unis qui manquent de sel. C'est notre monde entier qui manque de sel, de ce sel évangélique qui est la sagesse de la croix. Et si la peur de témoigner aujourd'hui nous saisit, écoutez Saint Jean Chrysostome. Vous n'avez pas à craindre la malédiction, c'est-à-dire les injures des gens d'aujourd'hui. C'est l'apparence de l'hypocrisie que vous avez à craindre, car la dissimulation nous affadit et nous jette sous les pieds des hommes. Et Jésus ne s'en tient pas à l'image du sel. Il ajoute la lumière. Regardons tout de suite le jeu entre ces deux images. Le sel, ça se voit guère, ou en tout cas ça n'attire pas tellement l'attention. Et quand il sert à donner de la saveur, ça se voit même pas du tout. alors que la lumière, elle, se voit, elle brille, elle éclaire. Vous êtes le sel de la terre. C'est un service très humble, cette foi au mystère pascal qui vous habite en profondeur. Et vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire vous êtes fait pour être vu comme une ville sur une montagne. Le soir, ça se voit. Mais comment deviendrons-nous visibles dans notre société? Jésus nous répond littéralement par des œuvres belles, des bonnes œuvres si vous voulez. C'est-à-dire des comportements, des choix de vie qui seront tellement beaux et signifiants que les gens glorifieront Dieu. Cela veut dire que notre comportement obéira, mais surtout dépassera les valeurs les plus nobles de la société. Si notre vie obéit aux valeurs de la société, les gens nous glorifieront, nous. Mais si notre vie va au-delà des valeurs pour aller vers un plus grand amour, vers un don de soi, alors les gens diront « Waouh !» Ils glorifieront Dieu et pas seulement nous. Alors, nous serons lumière du monde parce que la charité du Christ nous aura imprégné et transformé nos faits et nos gestes. Alors, faut-il être sel de la terre en confessant en profondeur le mystère de la croix et de la résurrection? Ou faut-il être lumière du monde par le témoignage d'une vie qui se donne? Bien sûr qu'il faut être l'un et l'autre, sel de la terre et lumière du monde. D'ailleurs, si tu es sel, si tu es imprégné de la sagesse de la croix de Jésus et de la belle espérance de la résurrection, alors nécessairement, ta manière d'aimer en sera transformée et tu seras lumière. Si tu es sel, tu seras lumière. Frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Au milieu d'une société qui est pleine de richesses d'humanité, mais qui s'enfarge dans des choix de ténèbres. Notre mission première n'est pas de dire non à ceci et à cela, mais de témoigner d'un autre rapport à la vie, d'une véritable écologie humaine, une attention à la vie, un respect de la vie, un amour de la vie, et même un émerveillement face à toute vie et un service de la vie depuis l'enfant à peine conçu dans le sein de sa maman jusqu'au mourant appelé à naître à la vie éternelle. Quelle belle mission que la nôtre de chrétienne et de chrétien aujourd'hui, d'être des prophètes, des serviteurs, des annonciateurs de cette nouvelle écologie humaine. Car il y a dans toute vie un mystère de Dieu. Il y a dans ta vie un mystère de Dieu. Ta vie est un mystère de Dieu. Nous sommes chacune, chacun, un reflet unique du visage de Dieu. Voilà ce que nous venons redécouvrir et retrouver en chaque Eucharistie.